Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui, un épisode avec El Goulami, mon ami imitateur d'Angoulême. On a enregistré ça dans un McDo, c'était un vrai plaisir. C'était juste avant qu'on joue à Saint-Aubin-de-Médoc pour une soirée Téléthon. On a passé un excellent moment et je pense que vous allez apprécier l'épisode tout autant que moi. J'ai pris du plaisir à l'enregistrer. La première fois que j'ai rencontré El Goulami, c'était au Fridge. On a partagé cette scène ensemble, donc l'open mic, et c'était vraiment un très bon moment. Comme d'habitude, merci pour votre soutien. Mettez s'il vous plaît un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict, ainsi que les applications de podcast qui le permettent. Pour cette fois-ci, mettez le mot yaourt, voilà, dans le commentaire. Comme ça, on va se marrer. Voilà, 5 étoiles, le mot yaourt dans votre commentaire, avec bien sûr, faut que ça ait du sens, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, à très bientôt les amis, je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui El Goulami, mon ami imitateur d'Angoulême. Salam Proya, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va, alhamdoulilah, ça fait plaisir de te voir.
Eh ben écoute, plaisir partagé.
Et d'enregistrer ce podcast avec toi, voilà. Ouais. Ça fait un petit temps que je voulais te proposer ça, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'imitateurs dans le podcast.
Ouais.
Et donc toi tu fais imitation, stand-up, un peu les deux quoi.
Exactement, et ouais. D'ailleurs j'ai pas envie de me cantonner à juste l'imitation, parce que finalement c'est plus que ça. Il y a l'imitation, c'est les voix connues, mais je fais aussi des voix inconnues. On va dire, de la création de personnages. Mmh. Et donc, finalement, c'est pour ça que je me définis plutôt comme un schizophrène vocal.
Je trouve que c'est très bien trouvé comme terme, schizophrène vocal. On est tous un peu des schizophrènes dans le stand-up, hein, ça, on va pas se mentir. Schizophrène vocal, ça fait vraiment... On identifie tout de suite un imitateur ou un humoriste qui des fois, t'es un peu comme Robin Williams, on en parlait tout à l'heure.
Exactement.
Tu vois, qui d'un coup se mettait à faire une voix complètement, parce que lui, il avait toutes les voix du monde dans sa tête, quoi, ouais. Dans sa gorge, on va dire. Il était vraiment trop fort et tout. Et donc, ouais, au niveau de ton identité, schizophrène vocal, je trouve que ça te va très bien.
Eh ben écoute, ça me rassure.
Bah, tu es le seul schizophrène à qui on ne souhaite pas la guérison.
Voilà.
C'est bien dit comme ça, ça va?
Ouais, c'est parfait. Okay.
Et donc, au cours de tes épisodes de schizophrénie sur scène, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter?
Oui, alors j'en ai une qui est vraiment mémorable, parce que en fait, tu sais, quand on écrit et tout ça, on a le texte, et puis il y a aussi les espèces de petites issues de secours de quand t'écris. Ouais. Tu te dis, s'il m'arrive ça, bah, je vais dire ça, et s'il m'arrive ça, etc.
Et c'est jamais ce qui se passe en vrai.
Ouais, j'ai quand même réussi à placer mon « au cas où mes cordes vocales me font défaut ».
Ah, t'as eu ça
J'ai eu ça, mais j'ai eu ça de manière très temporaire. Hein. Heureusement, c'était pas définitif. J'étais en plein act out et tout, je faisais mon personnage, je faisais le chapeauté.
Bonjour, c'est le chapeauté, voilà. Il était en train de faire la voix et puis tout à coup, il n'y a plus de cordes vocales. Donc il est obligé de se reposer des secondes.
Et à ce moment-là, mes cordes vocales bloquent et je suis sur scène et les gens me regardent et je commence à sentir la pression venir. Et là, je dis, désolé, j'avais un chat dans la gorge.
Oh, alors franchement, là, tu l'avais préparé?
Je l'avais préparé.
D'accord.
Mais du coup.
Mais placé.
Voilà.
Parfait. Parce qu'en plus, le public qui va écouter ça va se dire, mais il l'a fait exprès en fait.
Non, j'ai pas fait exprès. C'était ma mesure de contorsion.
Toi et moi, on le sait que tu n'as pas fait exprès. Mais le public qui te voit sur scène en train de faire ça et après d'un coup sec perdre ta voix et dire, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Ils vont se dire, ah, il l'a fait pour la vanne. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont penser que cet accident vocal n'est pas un accident.
Voilà.
C'est fait exprès. Mais donc, tu t'es sorti avec brio d'un accident.
D'où le fait de l'importance de quand on écrit, il y a le texte et il y a les événements aléatoires, comme j'aime aller. Ouais.
Mais j'avoue que ça, c'est quelque chose, par exemple, auquel les stand-upers classiques, parce que moi, je ne fais pas d'imitation, hein, je m'imite que moi, et même ça, j'y arrive pas. Tu vois, donc, j'ai du mal, même mon imitation de moi, elle est fausse. Donc, parce que je me suis pas encore trouvé, comme on dit, tu vois, j'ai pas encore trouvé mon vrai clown et tout, je sais pas. En tout cas, bon, c'est un travail de longue haleine et de plusieurs années, je pense. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, sur scène, même si on a un petit problème de voix, pas grave, on reprend notre voix à nous, c'est réglé. Toi, comme tu imites quelqu'un de particulier, les gens doivent retrouver cette même voix, il faut que tu la gardes sur tout le long.
Exactement.
Voilà. Moi, il m'est arrivé un truc une fois, j'étais sur scène, c'est vieux, c'était ma première fois à Paris en 2013. J'étais monté pour jouer là-bas sur un plateau qui n'existe plus maintenant, déjà ça te dit beaucoup de choses, ouais. sur la distance temporelle du truc. Et en fait, j'ai avalé de travers.
Ouais.
Et je commence à faire... Et j'avais plus de voix. Genre vraiment, mais tu sais, c'est pas genre... après tu fais genre... et tu reprends. Non, non, là c'était vraiment genre... tu sais, je parlais vraiment comme ça, tu vois. Et je dis, et je te jure, je commence à faire... Tu sais, je commence à essayer de continuer et d'un coup, je perds pied. Les gens, ils rigolent parce qu'ils voient que je rigole aussi. Tu sais, enfin, je perds pied. En fait, je ris nerveusement. Et oui. Les gens rigolent avec moi, ça va. Et il y avait la bouteille d'un mec. Et Dieu sait que je ne bois jamais dans les bouteilles des gens. Mais là, j'étais en panique. J'ai pris la bouteille du gars, un humoriste qui avait laissé sa bouteille là. J'ai bu, genre, par-dessus la bouteille, tu vois, genre, sans mettre mes lèvres dessus et tout. Mais bon, le mec avait déjà bu dedans, on va pas se mentir. Dieu merci, j'ai survécu. Et donc, non, mais j'aime pas boire dans le verre des gens, j'aime pas, voilà. Et c'était avant Covid, hein, je te dis, c'était 2013. Hein. Et donc, à ce moment-là, je bois une petite gorgée pour me rincer la gorge, quoi. Et après, je commence, et je parle un peu comme ça, tu vois, genre, à force de tousser, en fait, je me suis défoncé la gorge. Et ça fait que je parlais vraiment avec une petite voix. Et le seul truc que j'ai trouvé à dire, c'était genre, les gens, ils vont dire, punaise, le sketch était pas mal, mais la fin, elle était, tu vois, genre, c'est tout ce que j'ai pu faire, en fait, souligner le fait que la fin était ratée, quoi. Et les gens ont rigolé, et en fait, il y a eu de l'empathie, tu vois.
Oui.
Voilà. Mais toi, par contre, parce que moi, j'étais moi-même, en fait, mais toi, dans un personnage, si tu perds la voix du personnage,
ah ben là, oui,
c'est
oui,
terminé,
c'est... il y a ça, et puis, tu sais, en fait, j'ai fait un travail sur moi en disant qu'est-ce dont j'ai peur, le plus peur sur scène.
Mm-hmm.
Et comme tout humoriste, il y a oublié son texte,
ouais,
y a le bide, et en fait, tu te projettes finalement, enfin, je me suis projeté en tout cas sur ces situations-là en cas d'oubli de texte. Et
ouais.
Je sais que par exemple, bon, celle-là, je peux la donner parce que... Je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous la reconnaîtrez si je l'utilise. C'est dans le cas où j'oublie mon texte, j'ai la phrase pour dire, vu que je suis développeur en application en fait dans la vraie vie,
oui.
C'est « Désolé, mon cerveau est en train de redémarrer, veuillez patienter pendant le reboot. » Tu vois, ça permet d'avoir un rire.
D'accord.
Oui, très vite,
un rire
et rapide, le rire où toi tu vas dire bon ok qu'est-ce que je suis en train de
et
dire
ça te laisse
etc.
Quelques secondes pour,
voilà,
c'est comme quand le public applaudit.
Exactement.
Tu sais, souvent, bah nous au Gavé Style, quand les gens oubliaient leur texte, spontanément, on n'avait même pas besoin de lancer les applaudissements, spontanément le public applaudissait. Et pendant ce temps-là, l'humoriste avait le temps de retrouver son texte.
Exactement.
Et donc toi, ouais, toi en fait tu l'induis comme ça avec une phrase marrante. Et comme ça, les gens rigolent et le temps qu'ils rigolent, ça te donne le temps de voilà. Et d'ailleurs, voilà. Tu dois avoir des applaudissements là-dessus, non? Ah non, tu l'as pas encore utilisé.
Non, je l'ai pas encore utilisé.
D'accord, mais t'as pas encore eu trop de texte, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Si tu m'avais dit la 15e fois que je l'ai utilisé, là, je t'aurais dit frère, prends du phosphore. Tu vois, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Mais j'avoue que, en fait, le pire, c'est que dans ce métier-là, les trous de texte, ils peuvent arriver même quand tu connais ton texte par cœur.
Ouais, ouais.
Parce que, tu vois, moi, je pense à Joséphine Dry, qui était dans le podcast et tout. Elle m'a raconté qu'à sa première, elle a eu un blanc, mais un blanc énorme, au bout de quelques secondes de spectacle, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et elle m'a dit, pourtant, le spectacle, je le connaissais, mais sur le bout des doigts. Je l'avais répété pendant des jours et des jours, parce qu'elle est comédienne. Donc, fais-moi confiance qu'elle l'a bossé, son texte. Elle n'est pas partie là-bas en dilettante, tu vois. Et pourtant, le stress lui a fait oublier. Donc, le stress peut nous faire oublier.
Alors, il y a le stress et il y a un truc que j'ai remarqué aussi,
ouais.
De ma petite expérience, hein, encore une fois, je ne suis pas non plus un humoriste aguerri comme toi ou comme d'autres.
On est tous sur le chemin de l'apprentissage.
Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression, tu vois, tu écris ton texte, tu le prépares, tu l'apprends par cœur et après, tu vois, tu perçois l'audience, le public, comment il répond. Et en fait, c'est un autre monde que ce que tu as pu préparer. Et des fois, tu oublies des pans entiers de ton texte. Tu te dis, ah, j'ai pas parlé de cette partie-là.
Mais tu t'en
parce
rends compte
que...
après.
Voilà.
En général.
Exactement. C'est toujours
fait...
après.
Attends, mais j'ai pas parlé du supermarché. Ah oh, non.
Voilà.
La vanne sur la baguette. Oh,
exactement.
Là, j'ai oublié tout machin. Oh, on est tous pareils, t'inquiète.
Voilà. Et donc, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on est une espèce de. Comme si on surfait sur une vague. Parce que t'as l'attention du public, t'as sa réaction. Et du coup, ça te donne, on va dire, une configuration de l'environnement. Cette partie de tes vannes, eh ben, elle était pas faite pour cette audience-là. Et donc, en fait, inconsciemment, ton cerveau, il dit, non, mais on va jeter cette partie. Ça va aller à la poubelle.
C'est ça. C'est ça.
Oui, quand j'ai censuré ton spectacle.
C'est ça, en fait. Et ton cerveau, en fait,
comment dire, anticipe les difficultés. Il dit, attends, ça s'est pas passé, le prochain morceau va pas passer, saute à la suite, skip, tu vois, passer l'intro, tu vois, comme sur YouTube.
Alors que moi, mon cerveau, il me passer dit plutôt, pub, ah non, non, parle de ça plutôt, parle de ça, c'est plus drôle.
Ouais, ouais. Et ah, du coup, tu t'envoies carrément sur du nouveau texte.
Ouais, ouais.
Pas testé. Tout.
Ouais, ouais. C'est des fois, j'ai des. Bon, pas tout le temps, hein, mais des fois, j'ai des petites, tu vois, des petites prises de risque. Voilà.
Après, je pense qu'on est tous pareils. C'est sur scène, tu vas jouer ton texte et tout, et un truc va, tu sais, enfin, le public va rire fort à un truc et ça va t'inspirer une nouvelle vanne et hop, c'est comme s'il te donnait de l'énergie en plus et tu l'utilisais pour trouver une nouvelle vanne. On est tous comme ça, mais j'avoue que des fois, enfin, comment dire, le danger de ça, c'est que c'est de l'impro et que ça va marcher sur le moment parce que les gens vont se dire « Ah, il vient de la trouver !» Mais la fois d'après, tu n'auras plus jamais le même naturel.
En fait, il ne faut pas s'attendre à ce que quand tu vas la refaire, cette vanne...
Qui est la même réaction.
Et voilà. C'est une fois que tu sais que ce ne surtout... sera jamais la même réaction...
Ça fait mal, en fait, parce que quand tu vois la réaction, tu vois les gens ont applaudi et tout, et tu vois que la fois d'après, tu l'as fait, tu as juste des petits...
ouais.
Ah, tu fais « Non, elle était marrante et tout ouais. !» Et pourquoi il y a eu ça ? Parce que les gens perçoivent la sincérité et l'impro sur le moment.
Voilà, et puis même, en fait, quand t'improvises, on va dire que t'improvises selon des paramètres. Alors, je peux pas te dire les paramètres, quels sont-ils, hein. C'est des paramètres que ton cerveau, il gère de manière complètement subconsciente. Et en fait, comme c'est pas les mêmes paramètres, parce que t'es face à d'autres gens, etc., bah, ils sont pas câblés pareil, hein, les gens. Chacun a sa perception, chacun a son historique, etc.
Je pense que c'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant.
Exactement.
C'est jamais figé...
Ouais, ouais.
Et des fois, avec le même truc, la même intonation, la même intensité et tout, t'auras des réactions totalement différentes du public.
Exactement.
Un soir,
exactement.
Tu vas bider et le lendemain, tu vas cartonner.
Exactement. C'est exactement.
Et inversement.
inversement. Non, mais c'est pour ça que.
Ça fait beaucoup plus mal dans l'autre sens d'ailleurs.
Ouais,
quand tu cartonnes
ça.
Et que tu pars sur un bide.
Quand tu fais trois soirs d'affilée, voilà. ça rigole, ça s'esclave, les gens ils s'étouffent et tout.
Soir,
et le quatrième, t'entends.
c'est bizarre, on est à Paris, mais j'entends les cigales.
Et ben alors, les cigales elles sont partout en France, tu vois ce que je veux dire.
Ah, mais des cigales parisiennes, c'est rare. Hein. À part la cigale, la scène de la cigale, là, c'est autre chose. Enfin bon, non, mais c'est le spectacle vivant, et puis c'est ce qui fait aussi qu'on kiffe. Parce qu'on se dit, tu sais, c'est un risque en fait, c'est une espèce de saut dans le vide. Est-ce que je vais réussir à me rattraper à la branche ou pas, tu vois, est-ce que.
Ouais.
Je sais pas, c'est cette excitation-là. Parce qu'après, quand tu perds cette excitation-là, quand tu sais que ça marche sur des rails et tout machin, tu prends plus de plaisir.
Et ben, d'où le fait de se laisser un peu le texte respirer. C'est-à-dire qu'il y a des vannes que je vais écrire à la virgule près, mm-hmm. où je sais que ça va marcher comme ça, il faut le cadencer comme ça, etc. C'est limite une partition de musique.
Ouais.
Et il y a des moments où je vais être plus dans l'idée générale, pour rester dans ce truc-là qui me fait marrer moi. Parce que j'ai une règle, hein, je pense que c'est pareil pour tous les bons stand-upers, c'est que je ne fais que les vannes qui me font.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour rire. À aucun moment, une vanne dans laquelle moi je vais pas rigoler en premier, je la ferai sur scène.
C'est-à-dire tu vas pas donner au public ce qu'il veut entendre si toi ça te plaît pas.
Voilà.
En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Ah, les gens vont attendre que j'aille vers ça ». Et du coup, si toi, ça te plaît pas, tu iras pas vers ça.
Ah non, non, non.
Je comprends. Bah, quelque part, c'est une bonne règle. Parce que le plus important dans l'humour, c'est ce qu'on appelle le delivery, tu vois, genre la façon de livrer les blagues aux gens.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avec une bonne blague, mais une excellente blague à un killer, tu vois, si tu le balances avec un mauvais delivery, t'auras pas de rire. Et à l'inverse, une blague, pas mauvaise, mais moyenne, si tu la balances avec un bon delivery, un bon act-out et tout derrière, genre jouer la blague, donc l'act-out, c'est jouer la blague, là, tu vas recueillir vraiment, tu vas cueillir tout le monde. Tu vois. Donc, je pense que c'est important ce que tu dis, parce que quand tu vas jouer que les blagues qui te font rire toi, tu vas mieux les vendre.
Exactement. Alors parce que je suis convaincu déjà.
Voilà. Toi-même, t'es convaincu de la blague, tu sais qu'elle est marrante, et t'as envie de dire aux gens, écoutez pourquoi elle est marrante. Et tu vas mieux la livrer. Alors que si tu le fais en mode fan service, genre, mesdames et messieurs, je sais que vous voulez tel truc, donc je vais vous le faire, tu vas moins bien le vendre, les gens vont moins bien rigoler, tu vas être déçu au final.
Il se peut qu'ils rigolent. il se peut même qu'il passe un super moment, mais t'auras pas ce facteur-là supplémentaire de l'authenticité, parce que tu vois, tu te disais, par rapport à ce que tu disais, tu tournais un peu autour, il y a l'authenticité, et en fait, l'authenticité dans l'humour, c'est le plus fondamental de tout, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire aux gens, quel message tu veux laisser, quelle impression, etc., donc il y a une énorme responsabilité finalement en tant que stand-upper. Et quand t'as ce filtre-là personnel de dire non, ça me fait pas rire, ou j'aime pas parler de ça, ou autre, et que tu parles que de ce qui te fait rire, et que de ce, en fait, où ta conscience, elle est tranquille là-dessus, bah, t'as le nappage en plus de la blague qui vient faire que, bah voilà, ouais, t'as.
Mais les gens sentent ça, les gens sentent la sincérité.
Ouais. Ils le sentent de manière inconsciente, en fait. C'est vraiment il n'y a pas de règles données ou de.
C'est une espèce de sixième sens.
Voilà, exactement.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais que s'il y a deux stand-uppers qui vont faire leur set et qui vont balancer leur van et tout machin, s'il y en a un des deux, c'est totalement inventé, et l'autre, c'est sincère avec une petite couche de van par-dessus et tout, je sais que je vais beaucoup plus adhérer au deuxième. C'est la sincérité. Moi, ça me parle, tu vois. Et les gens veulent de la sincérité.
Alors, il y a un proverbe arabe qui dit « Parole du cœur va au cœur et parole de la langue va à l'oreille tout au plus. »
D'accord. Et parole du ventre, ça va où, du coup
Ah bah écoute, parole du ventre, ça
j'ai
va au
McDo. Dalle, là, je te cache pas, frère.
Et moi aussi, j'ai la dalle. Viens, moi, je dis deux notes.
Je suis chaud. Homer, mais tu sais quoi, Homer, ce serait mon meilleur pote. Dans la vie, Homer, ce serait le mec, il aime dormir, il aime manger, mais on s'entendrait trop bien.
Bah oui.
Mais de ouf.
Et surtout qu'il a des vraies bonnes excuses pour pas aller au taf le matin.
Qu'est-ce que j'aimerais m'inspirer.
Mais bibiche, je t'ai dit que je pouvais pas aller au travail aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas envie.
Ouais, c'est ça. Moi, si je sors cette excuse-là, je prends un coup de savate, mais tellement fort, ça passera pas. Tu sais, ma femme, elle va me regarder, elle va me dire, écoute, on a des gosses à nourrir.
Voilà.
Ferme ta gueule.
Des vies dépendent de toi, Sofiane.
Des ventres. Des ventres dépendent de toi, Sofiane. Plus ça, tu vois. Va taffer et ferme-la, quoi. Et elle a raison. Donc, je ne suis pas Homer, malheureusement. Et donc, je vais taffer. Mais bon, c'est... Bah, quelque part aussi, moi, je suis content, tu vois. Je fais un petit aparté, là. Je suis content d'avoir toujours mon taf de conducteur. Donc, je bosse à la RATP, maintenant. Je conduis toujours les bus. Ça fait 15 ans et tout. Et je suis content, en fait, de garder mon taf parce que ça me permet, d'une, d'en avoir marre quelque part et de pouvoir souffler sur scène. Tu sais, c'est une espèce de soupape. Ouais. Et surtout, ça me permet de vivre des choses. Parce que beaucoup d'humoristes disent que quand ils ont complètement arrêté, qu'ils font que de l'humour... Et tu sais, genre, les humoristes dont la vie ne commence qu'à 22h le soir et qui se termine à 1h du mat. Mmh. Tu vois, ceux qui font vraiment rien de leur journée, et je ne critique pas, hein, chacun sa vie,
bien sûr.
Hein. Mais genre, il y en a certains, leur vie commence que le soir. Ils n'ont parlé à personne de la journée, ils sortent de chez eux pour aller au Comedy Club, ils jouent, ils rentrent chez eux, leur journée est finie. Je trouve que ces gens-là, ils le disent eux-mêmes, hein, il va leur manquer un truc. Il va leur manquer un truc à force, c'est-à-dire que ce qu'ils ont emmagasiné jusque-là, ils vont pouvoir s'en servir, mais après, pour faire du nouveau matériel, ça va être très dur, parce qu'ils vivent rien. On a besoin de vivre des choses, parce que notre stand-up se nourrit de notre quotidien.
C'est-à-dire que soit ils vivent rien, soit ils vivent avec des chômeurs.
Aussi. Et ça peut être genre, oui, mon pote l'autre jour, mon coloc, mon coloc l'autre jour, machin, là ça marche.
Ouais.
Mais si toi, tu vis seul et que t'as rien, que tu vis rien, j'avoue que ça va être fade. Ouais. Ça va être juste superficiel, en fait. Alors que quand tu vis des choses, tu les vis, mon pote, et t'es à fond et tout, et tu dis, ça, je veux le raconter sur scène. Et quand tu le racontes, tu le vis en même temps. Alors que quand tu inventes, tu sais, tu vas théoriser le rire, en fait. Tu vas juste faire de la théorie. Ouais. Et la théorie, ça peut marcher, mais ça n'aura jamais la saveur. Tu vois, tu parlais du nappage.
Ça va marcher à 80% maximum.
Voilà, c'est ça. 80, t'es gentil, hein, quand même.
Non, parce que c'est selon la règle du 80-20, c'est la loi de Pareto.
Ouais.
Et te dit.
Ah, c'est un chiffre vraiment.
Non, c'est pas une stat. En fait, t'as 80% du résultat avec 20% d'effort. Et en fait, les 20 derniers pourcents pour aller.
C'est
80% de l'effort. Donc, le 80%. Va être la blague technique, sauf que ce qui va te rester pour aller jusqu'à 100% d'une bonne blague, c'est qu'un cinquième du taf, c'est-à-dire l'authenticité, l'énergie que tu vas apporter dessus, etc. Et donc, ça représente quelque chose d'énorme par rapport à la blague en elle-même, mais le résultat en vaut le coup à chaque fois. C'est vraiment...
C'est clair. Il y a des scènes comme ça où tu sors et tu sens que tu as été authentique et les gens t'ont kiffé. Et puis derrière, tu voles. Et tu te dis, j'ai qu'une seule envie, c'est de recommencer. Et le problème, c'est que c'est tellement rare que t'arrives rarement à le refaire le lendemain et tout.
C'est ça.
Ça vient de temps en temps. C'est un petit Kinder Surprise, tu vois. C'est de temps en temps un petit cadeau, comme ça.
Et c'est généralement quand t'es à deux doigts de dire, non mais pourquoi je fais ça, vaudrait mieux que j'arrête et tout. Puis là, t'as ce moment de grâce et tu fais, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça.
D'ailleurs, frérot, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la scène?
Ça fait un peu plus d'un an et demi.
Un peu plus d'un an et demi. Donc déjà, t'as bien bossé et tout, je veux dire, tu t'es mis à fond dedans et tout, c'est très très bien. Et combien de fois déjà t'as eu envie d'arrêter?
Oula, beaucoup.
Mais c'est ça en fait, c'est ça. J'avais honte au début, moi, quand ça m'est arrivé au tout début, j'avais honte, je me disais, mais en fait, est-ce que je suis un vrai humoriste? Alors que j'ai envie d'arrêter. Et c'est après, quand j'ai parlé avec les collègues, bah, à travers le podcast, à travers juste nos discussions dans les loges, je me suis dit, mais en fait, on a tous envie d'arrêter. Mais ouais. Le jour où tu cartonnes, tu dis, mais demain, je laisse tomber mon taf et je veux faire que ça, tu vois. On a des hauts et des bas comme ça, ça fluctue. Et c'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant, comme on disait tout à l'heure. Oui. Parce que un jour, tu vas être moins bien, le lendemain, tu auras la rage, tu vas avoir l'énergie de la revanche, tu vois. Tu vas cartonner, machin. Et c'est ce frisson. Parce que si c'était toujours nul ou toujours parfait, on s'ennuierait dans les deux
cas. Oui, bien sûr.
Donc
bien
voilà. Sûr. C'est un frisson, en fait, qu'on ressent à chaque fois quand on fait de l'humour et tout. Et c'est tellement bon quand ça... Enfin, ça fait trop mal quand ça plante, mais c'est tellement bon quand ça marche. Et on continuera à le faire, tu vois. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous.
Je vais simplement citer Mandela, rien que ça.
Ouais.
Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »
C'est une de mes citations préférées.
Voilà. Je pense que c'est la citation parfaite pour les stand-uppers.
C'est totalement ça.
Parce que soit tu cartonnes, soit ton bide t'apprend beaucoup de choses sur ton humour.
Ben, en fait, la seule phrase... Mandela l'a pas mis, je lui en veux pas, tu vois. Mais quand il dit « soit je perds, soit j'apprends », c'est juste que nous, dans la partie « soit je perds », c'est « soit je perds et je finis au kebab du coin à me morfondre
». Et j'apprends.
Et j'apprends, voilà, c'est ça. Non, c'est ça, hein. Parce qu'après un bide, la bouffe d'après bide, elle fait du bien quand même. Tu sais, tu te venges sur la bouffe, tu dis « bah, tu sais quoi, vous m'aimez pas, je vais grossir, je m'en fous ». D'ailleurs, les gens se demandaient peut-être d'où venait mon surpoids. Enfin bref, Roya, merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi.
C'était un plaisir.
Eh ben, plaisir partagé.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Eh ben, sur Instagram, Elgoulami, et c'est tout pour l'instant.
Ouais. Donc, pas Facebook, Twitter.
Non.
Chaîne YouTube peut-être?
Ça va venir.
Alors écoute, au moment où je sortirai l'épisode, si la chaîne YouTube existe, je la mettrai. Sinon, je mettrai Insta, Elgoulami. Et voilà, ben, pour ma part, vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.